VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 3 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Le président camerounais Paul Biya ordonne la libération de 333 détenus liés à la crise anglophone. 600 Burundais réfugiés en Tanzanie ont été rapatriés volontairement selon le HCR. Au Nigeria, 6 lycéennes et 2 employés ont été enlevés dans une école de l'état de Kaduna. Les États-Unis ont annoncé la réouverture d'une ambassade à Mogadiscio 28 ans après l'avoir fermée. L'ancien émissaire américain pour l'Ukraine, Kurt Volker, est auditionné à huis clos au Congrès ce jeudi. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président camerounais Paul Biya a ordonné l'abandon des poursuites contre 333 détenus dans le cadre du conflit dans les zones anglophones. Selon un communiqué du secrétaire général de la présidence, les personnes bénéficiaires de cette grâce présidentielle étaient poursuivies devant les tribunaux militaires pour des crimes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, souligne le communiqué. La décision du président a été prise en soutien aux assises du grand dialogue national en cours. Un premier groupe de Burundais réfugiés en Tanzanie a été rapatrié, a indiqué le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Yakoba Ouedraogo nous en dit plus.
590 Burundais sont partis de la Tanzanie dans un convoi de rapatriés volontaires, selon le HCR. Des témoins ont indiqué qu'ils sont arrivés à bord de 8 bus sur le site de transit de Gisuru, dans l'est du Burundi. Selon les autorités burundaises, ces rapatriés vont rester dans ce camp jusqu'à demain avant d'être acheminés vers leur commune d'origine avec un kit de vivres pour 3 mois. Hassan Abbas, porte-parole du gouvernement tanzanien, a assuré qu'aucun réfugié burundais ne sera forcé de retourner dans son pays. Le HCR a rappelé qu'il ne soutiendra pas le retour forcé des réfugiés, demandant aux deux gouvernements de respecter les engagements pris. En août 2017, Dar es Salaam, Bujumbura et le HCR ont signé un accord sur le rapatriement des réfugiés burundais en Tanzanie. Depuis, le Haut Commissariat pour les réfugiés a facilité le retour de plus de 74 000 réfugiés volontaires vers leur pays. Il reste encore en Tanzanie 225 000 réfugiés burundais répartis dans 3 camps. D'autres sont au Rwanda, en RDC et en Ouganda. Selon le HCR, près d'un millier de Burundais continuent chaque mois à fuir leur pays.
Les élections législatives au Tchad, repoussées depuis 4 ans, ne pourront pas avoir lieu avant le premier trimestre 2020, a annoncé le président de la commission électorale, Kody Mahamat. Le président Idriss Déby avait sommé la CENI d'organiser le scrutin avant la fin de l'année. Même avec ce nouveau report, l'élection reste dépendante du financement des opérations, a déclaré M. Mahamat, réclamant l'appui des partenaires techniques et financiers du Tchad. Dans l'est de la RDC, 21 mineurs artisanaux sont morts dans l'éboulement d'une mine d'or hier, selon un bilan revu à la hausse par le gouverneur du Maniema, Augustin Moussafiri. Un acteur de la société civile, Justin Kianga Soumani, a avancé un bilan plus élevé de 25 morts. Le nombre total de personnes qui se trouvaient dans la mine n'est pas encore connu. En Côte d'Ivoire, le président du conseil régional du Béké, Jacques Mangoua, un vice-président du PDCI, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour détention illégale de munitions de guerre et de 40 machettes par le tribunal correctionnel de Bouaké. Il a aussi été condamné à 5 millions de francs CFA et à 5 ans de privation de ses droits civiques. Monsieur Mangoua clame son innocence, disant que si c'était lui, pourquoi aurait-il porté plainte? Son entourage crie au complot et au coup monté. Le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont convenu aujourd'hui à Pretoria de coopérer pour éviter la répétition des violences xénophobes qui ont secoué l'Afrique du Sud, causant des tensions entre leurs deux pays. Des précisions avec Eric Manirakiza.
Les deux chefs d'État ont condamné d'une même voix les attaques contre les étrangers en Afrique du Sud et les actes de représailles qui ont suivi au Nigeria. Ces violences menacent non seulement nos solides relations bilatérales, mais aussi notre vision d'une Afrique forte et prospère, a renchéri M. Buhari. Nous sommes totalement contre ces actes, nous ne pouvons pas les tolérer, a déclaré de son côté Cyril Ramaphosa. Ils ont convenu de la mise en place de mécanismes d'alerte pour informer mutuellement les deux pays à travers une coopération accrue de leur police et de leurs services de sécurité. L'Afrique du Sud attire des millions de migrants, dont de nombreux Nigériens, en quête d'emploi et de vie meilleure. Le Nigeria est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud, représentant 64% du commerce sud-africain vers l'Afrique de l'Ouest.
Dans le nord du Nigeria, 6 lycéennes et 2 employés ont été enlevés par des hommes armés dans un pensionnat de l'état de Kaduna, a annoncé la police. Les agresseurs ont fait irruption à l'intérieur du lycée Ungravers, situé dans une zone reculée, et emmené 2 membres du personnel et 6 étudiantes vers une destination inconnue, a déclaré un porte-parole de la police, Yakubu Sabo. Les États-Unis ont annoncé hier soir la réouverture d'une ambassade à Mogadiscio, 28 ans après l'avoir fermée pendant la guerre civile. Les précisions avec Irénée Hermanongbo.
C'est un jour historique et significatif qui reflète les progrès de la Somalie ces dernières années, ainsi qu'un pas vers la régularisation de l'engagement diplomatique à Mogadiscio. Depuis la reconnaissance du gouvernement fédéral de Somalie en 2013, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en Somalie, Donald Yamamoto. Washington avait rétabli en décembre 2018 une présence diplomatique à Mogadiscio. La mission américaine pour la Somalie était rattachée à l'ambassade des États-Unis à Nairobi. L'intervention américaine Restore Hope avait débuté en décembre 1992, puis l'armée américaine a subi l'un de ses plus terribles fiascos avec 18 soldats américains tués en quelques heures à Mogadiscio. La Somalie fait face depuis 2007 à l'insurrection des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Lundi, ils ont lancé des attaques audacieuses contre une base militaire utilisée par les soldats américains pour former l'élite de l'armée somalienne ainsi qu'un convoi de l'Union européenne à Mogadiscio.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au troisième jour de manifestation meurtrière en Irak, 6 personnes ont été tuées par balle aujourd'hui à Nassiriya, au sud de Bagdad. 27 personnes, 25 manifestants et 2 policiers ont été tués depuis le début mardi d'un mouvement à Bagdad dénonçant la corruption et réclamant des emplois qui s'est étendu depuis dans le sud du pays. Aux États-Unis, 3 commissions parlementaires ont commencé à auditionner des diplomates en charge de la politique ukrainienne, notamment Kurt Volker, qui a démissionné vendredi comme envoyé spécial en Ukraine. Pour sa part, le président Donald Trump dit qu'il pourrait assurément demander à Pékin d'enquêter sur l'ex-vice-président Joe Biden. Les détails avec Jacques Aristide.
Le locataire de la Maison-Blanche s'est dit prêt à faire une telle requête au président chinois Xi Jinping. Hunter Biden, deuxième fils de Joe Biden, est soupçonné de corruption en Ukraine par le président américain, qui accuse son père d'avoir demandé le limogeage d'un procureur ukrainien pour le protéger. Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, a lui déclaré que Donald Trump ne parviendrait pas à le détruire. Un entretien téléphonique du président américain avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, ayant trait aux activités des Biden, fait l'objet d'une enquête de la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates en vue d'une éventuelle procédure de destitution. L'élu républicain Michael McCaul s'est dit alarmé que les auditions prévues aujourd'hui seraient conduites par les membres du personnel de la commission du renseignement et non pas par les parlementaires eux-mêmes.
Le président américain Donald Trump a déclaré vouloir continuer les négociations avec la Corée du Nord malgré le nouvel essai de missiles de Pyongyang. Une équipe de négociateurs nord-coréens est arrivée en Suède où ces nouveaux pourparlers doivent débuter en fin de semaine. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont demandé une réunion à huis clos vendredi du Conseil de sécurité après le test nord-coréen à partir d'un sous-marin. L'Iran a annoncé l'arrestation de 3 terroristes soutenus par les services secrets israélo-arabes, affirmant qu'ils préparaient un attentat contre le général Qassem Soleimani, chef de la force Quds. Les trois suspects avaient été envoyés à l'étranger et des sommes importantes ont été dépensées afin de les former et de les préparer, indique le site officiel des gardiens de la Révolution, laissant entendre qu'il s'agirait de trois Iraniens. Le premier ministre sortant israélien Benjamin Netanyahou a suggéré la tenue d'élections primaires au sein du Likoud afin de couper court à toute tentative de rébellion interne alors qu'il négocie son maintien au pouvoir. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée par Nanit Talani.
L'île Maurice lance la première phase d'un système de métro léger sur rail de 525 millions de dollars pour réduire les embouteillages. Le système sera opérationnel d'ici 2022 pour transporter près de 55 000 personnes par jour. La première étape de 13 km va relier Rosyle au centre de l'île à la capitale Port-Louis. Une autre ligne de 26 km reliera Curepipe à la capitale. Le réseau est construit par les sociétés indiennes Larsen & Toubro et est financé par une subvention de 275 millions de dollars du gouvernement indien et une ligne de crédit de 250 millions de dollars. La Banque centrale du Nigeria fait pression sur les banques commerciales pour qu'elles augmentent leurs prêts pour contribuer à la croissance. Depuis fin septembre, la banque leur a ordonné d'augmenter le ratio minimum créditeur-dépôt de 60% à 65%. Les banques commerciales qui n'atteindront pas cet objectif d'ici décembre devront faire face à des exigences plus élevées en matière de réserve de trésorerie. C'est la deuxième fois en trois mois que la Banque centrale du Nigeria augmente son objectif de crédit des banques commerciales. Pour terminer, la première émission d'obligations vertes du Kenya a levé 41,45 millions de dollars pour la construction de logements destinés aux étudiants respectueux de l'environnement. La banque Stanbic a déclaré que le prix de l'obligation était de 12,25%. Les obligations vertes sont des titres à revenus fixes qui mobilisent des fonds pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et du traitement des eaux usées.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Début ce soir des quarts de finale du tournoi de l'UEFA.
Un seul quart au programme ce soir à Thiès. Le pays hôte, le Sénégal, fait face au Bénin. Les écureuils partent un cran en dessous en étant la dernière équipe à se qualifier et la première à disputer les quarts de finale en 48 heures. En plus, le Bénin doit faire sans Fadil Bawa et Saliou Idrissou, blessés lors du match contre la Guinée. En face, les Lions locaux de la Teranga ont obtenu leur billet pour les quarts depuis 4 jours et peuvent aussi compter sur leur public pour décrocher la première place dans le dernier carré.
Les différents groupes de la CAN des moins de 23 ans sont connus.
Le tirage au sort a eu lieu et les 8 équipes qui ont composté leur billet pour la phase finale sont fixées sur leur sort. De belles affiches en perspective pour la 3e édition de ce tournoi continental, surtout dans la poule A, composée du pays organisateur l'Égypte, le Mali, le Ghana et le Cameroun. Le groupe B est partagé par le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Zambie. La CAN des moins de 23 ans va se dérouler du 8 au 22 novembre prochain au pays des Pharaons. Les 3 premières équipes vont représenter le continent aux Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Le match amical RDC-Côte d'Ivoire a été délocalisé à Rouen.
Cette rencontre amicale était initialement prévue à Paris le 13 octobre. Les éléphants et les léopards s'affrontent dans le cadre de la journée FIFA. Avant ce match, les léopards de la RDC feront face au Fennec d'Algérie le 10 octobre au stade Mustapha Tchaker de Blida. Pour ces matchs amicaux, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Christian Nzengi Mbiembe, a retenu 26 joueurs, une liste marquée par le retour de l'attaquant Dieu Merci Mbokani et de Nikens Bkebano de Fulham. Il a aussi fait appel à 2 novices, Samuel Moutoussami de Nantes et Edo Kayembe d'Anderlecht.
5 joueurs érythréens se sont enfuis alors qu'ils étaient en Ouganda.
5 joueurs de l'équipe nationale érythréenne de football sont portés disparus en Ouganda, où ils disputaient un tournoi régional selon le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est. L'organisation régionale n'a pas souhaité s'exprimer au sujet de rumeurs. selon lesquels les cinq footballeurs se sont enfuis pour demander l'asile en Ouganda. En octobre 2015, le Botswana a accordé l'asile à 10 footballeurs érythréens qui en avaient fait la demande après avoir disputé un match de qualification pour le Mondial 2018. En 2012, 18 footballeurs érythréens venus participer à un tournoi ont demandé l'asile en Ouganda.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Washington a rouvert une ambassade à Mogadiscio. Il y a 28 ans, les États-Unis avaient fermé leur chancellerie en pleine guerre civile. La nomination d'un ambassadeur pour la Somalie intervient à la suite de la mise en place en décembre dernier d'une présence diplomatique permanente à Mogadiscio et qui était rattachée à Nairobi. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint Tunis, le spécialiste en matière de sécurité, Amédou Ould Abdallah.
Écoutez, moi je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux qui vont au-delà de la Somalie. Les premiers sont liés à la situation dans la région. Donc l'entrée sud, la Somalie est à l'entrée de la mer Rouge, le détroit d'Aden, la situation qui prévaut au Yémen, les changements, les développements politiques qui se trouvent en Éthiopie, mais aussi toute cette insécurité, plus la compétition commerciale des produits qui viennent de Chine, du Japon. Et il faut donc une sécurité, surtout que déjà à Djibouti, il y a toutes les présences militaires françaises, américaines, mais aussi chinoises, japonaises, allemandes et espagnoles. Je pense que pour des raisons stratégiques, commerciales et autres, la présence américaine devient une exigence en Somalie. Au-delà de ce point de vue, il y a aussi les alliés traditionnels des États-Unis, donc le Kenya et l'Éthiopie plus Djibouti. Ces trois pays ont besoin d'une stabilité en Somalie. Et la présence américaine devient une exigence dans ce contexte. Et le choix d'un ambassadeur qui a beaucoup d'expérience comme Yamamoto, à mon avis, confirme donc ce regain qui va au-delà de la seule Somalie.
L'ambassadeur Yamamoto parle d'un jour historique significatif qui reflète les progrès de la Somalie ces dernières années. Mais il n'y a pas eu assez de progrès.
Vous avez parfaitement raison. Sur le plan politique, il y a eu des progrès que les Somaliens se voient. Ils sont de plus en plus à Mogadiscio et de moins en moins à Nairobi ou à Addis Ababa. Il y a toujours les réfugiés du camp d'Abab. Mais il y a quand même de plus en plus un président qui finit son mandat, un président qui se prépare à une réélection. Les Français appellent ça la méthode Coué. Donc, s'absenter ne règle pas le problème. On l'a fait de 93 à maintenant. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faut continuer et aller au fond des problèmes. En particulier, les provinces les plus déshéritées sont celles qui fournissent le plus de combattants. Les gens n'ont pas d'avenir devant eux. Et donc, je pense que l'effort doit être en particulier sur ces provinces pour savoir comment tarir la source des financements. Je respecte les mentalités religieuses et politiques des gens, mais je pense que c'est une guerre plus d'économie, d'influence tribale et autres que religieuse.
Washington opérait depuis quelques années militairement. Est-ce que cette présence ne suffisait pas pour s'occuper de toutes ces questions dont vous venez d'énumérer?
Alors, Washington opérait depuis plusieurs années par des drones, par des opérations ciblées, beaucoup plus pour aider les pays de la région et la sécurité dans la région. Peut-être le résultat de ces opérations a amoindri ou a changé la force de frappe des différentes rébellions, en particulier les Chebab, qui sont une organisation structurée mais complexe en même temps. Le grave danger, c'est que l'instabilité est devenue pratiquement un business en Somalie. À long terme, les Chebab ne pourront pas continuer à déstabiliser leur pays et se déstabiliser eux-mêmes.
C'était l'ancien diplomate et expert en sécurité Amédou Ould Abdallah. « Les réfugiés retournés centrafricains installés à Gaoui, au nord-ouest de N'Djamena, mènent une vie difficile vu le manque de structures socioculturelles et d'assistance. Un projet pour leur insertion sociale a été initié par des organisations humanitaires. Mais cette initiative n'aurait eu que peu d'impact selon notre correspondant André Kodmajingar.
Installés en 2013 sur le site de Gaoui, un quartier à la périphérie de N'Djamena, les réfugiés et retournés centrafricains font partie de plus de 6000 réfugiés urbains vivant à N'Djamena. Mais aujourd'hui, cette frange de la population désœuvrée semble être abandonnée par les autorités de N'Djamena et les organisations humanitaires. Les services sociaux de base sont quasi inexistants. Même les huttes de fortune construites à l'aide de bâches et les latrines semi-modernes sont la plupart tombées en lambeaux. Au micro de VOA Afrique, quelques-uns ont du mal à s'exprimer sur leurs conditions de vie.
À peu près déjà là, on a bien traité. Mais maintenant, on a beaucoup souffert. Regardez comment nous sommes. Vraiment, on n'a pas envie de rester ici. Un serpent était rentré ici. Et puis, mon poulet, même deux fois.
J'ai vu beaucoup de filles qui sont allées chercher des hommes passe-partout. La moyen de vivre. Il y a des jeunes filles qui sont transformées la grossesse. Ils ne reconnaissent pas l'homme qui a mis la grossesse.
Vous voyez, les bâches là sont déjà pourries. Ici, là, il n'y a pas une école publique, seulement le privé. Et le privé, là, ça demande l'argent. À présent même, je n'ai pas fait d'inscription à cause de la.
Pour aider ces personnes désœuvrées à se prendre en charge, un projet de résilience pour la réinsertion sociale a été piloté par une ONG partenaire du SR en 2017. Des loyers ont été payés pour 6 mois pour certains, avec un petit fonds pour les activités génératrices de revenus. Malheureusement, c'est un échec. Après les 6 mois, les bénéficiaires n'ont plus de moyens et préfèrent revenir sur le site. Fatima Adawai est la présidente des femmes retournées de la Centrafrique.
Elle nous a donné 70 000, 75 000. Elle est allée diviser aux radios qu'elle nous a bien servi. 75 000. Tu payes l'école, tu achètes les cahiers, les tenues pour les enfants. Et comment tu vas vivre avec ça? Et puis, dès que nous sommes ici dans le site, pas d'assistance. Dans notre pays, on est en train de souffrir.
Pour l'administrateur principal chargé de protection du SR au Tchad, si le système d'assistance mis en place pour insérer ces personnes vulnérables ne règle pas le problème, l'OSR sera obligé de les déplacer dans un autre camp à l'intérieur du pays. Kinyandui Boniface Macharia.
Le but de ce projet était d'insérer les réfugiés et les retournés tchadiens dans la ville de N'Djamena. Et à travers cette activité économique, ils devaient se prendre en charge. Donc, si cela n'a pas réussi, qu'il y a toujours la possibilité, nous avons au-delà des 14 camps ici au Tchad, on peut les transférer au camp. Et au camp, il y a tous les services disponibles.
Selon de bonnes sources, le camp de Gaoui, qui abrite aujourd'hui environ 4000 réfugiés centrafricains, est rattrapé par la pression démographique et qu'il sera fermé dans les jours à venir. André Kodumadjingar, N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le respect de la limitation des mandats présidentiels en Afrique est au centre d'un forum qui se tient à Niamey au Niger. Une occasion pour le président Mamadou Issoufou de réaffirmer son engagement à quitter le pouvoir en 2021 au terme de ses 2 mandats. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
La rencontre de Niamey a une symbolique. Elle se tient dans un pays où le président est en fin de son 2e et dernier mandat constitutionnel, alors qu'ailleurs les citoyens s'interrogent encore sur les intentions de leur chef d'État qui se trouve dans la même situation. Au Niger, Issoufou Mahamadou a clairement dit et depuis longtemps qu'il s'en ira. Il l'a réitéré à l'ouverture du forum mercredi.
Je crois à la nécessité de l'alternance démocratique qui permet la respiration démocratique. La respiration démocratique favorise la stabilité des institutions. Par ailleurs, je reste convaincu que la stabilité des institutions réside dans leur légitimité et leur légitimité résulte des élections libres et transparentes. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. Ce sera ma plus belle réalisation. Ça sera une première dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance.
Nicéphore Soglo, ancien président béninois, présent au forum avec 4 autres présidents ayant quitté démocratiquement le pouvoir dans leur pays, espère beaucoup de ce forum, notamment pour la sous-région ouest-africaine.
Malheureusement, dans les États de la CEDEAO et de l'Union africaine, cette thématique suscite encore des soulèvements au sein des États. C'est pourquoi nous espérons et nous voulons que ce sommet ait pour objectif de promouvoir les principes de la gouvernance démocratique et de l'alternance pacifique du pouvoir exécutif, tel que stipulé dans les constitutions des différents pays africains. Moi, je suis optimiste. Nous allons vers la terre promise.
La terre promise, c'est aussi vers elle que le National Democratic Institute veut conduire les États africains à travers cette initiative. Christopher Fumigno, directeur Afrique de la structure.
Le sommet est le résultat d'une longue réflexion enrichie par les constats du NDI sur le terrain pendant les trois dernières décennies et qui demande que les pays dans lesquels les constitutions sont respectées par les leaders politiques, les pays qui connaissent la limitation des mandats et des transitions pacifiques sont à même d'être plus stables et à l'abri des violences et des conflits.
Le forum va durer 3 jours au cours desquels experts de la gouvernance démocratique et du droit constitutionnel, hommes politiques et acteurs de la société civile échangent pour trouver des réponses aux multiples questions que pose la problématique. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc, a entrepris un programme de formation de 60 000 personnes pour pallier l'actuelle pénurie de récolteurs de la sève DVA. Ainsi, des camps de formation sont mis en place pour éduquer les aspirants producteurs de caoutchouc aux nouvelles techniques de cette pratique agricole. Blanche Sanou nous en dit plus.
Le village d'Abiou Travo, dans la localité de Sikensi, au nord-ouest d'Abidjan, abrite la première école de seigneurs dont les stagiaires, âgés de 18 à 40 ans, sont venus des quatre coins du pays pour apprendre le métier. Muni de ses outils, le formateur Sylvain Kona donne des cours à ses élèves habillés en uniforme et chaussés de bottes.
La formation se passe sur 40 jours ouvrables, pratiquement 2 mois. Et cette formation est basée sur 2 aspects. Nous avons la formation qui se passe à l'école sèche. L'école sèche, c'est ce que vous voyez derrière moi. Cette école-là, nous allons couper les arbres quelque part et nous venons installer ces arbres-là. Cette école, l'école sèche, si on peut dire ainsi, c'est l'initiation.
L'EVA occupe une place importante au sein du secteur agricole ivoirien car il contribue significativement aux recettes d'exportation. Les agriculteurs sont bien conscients de la nécessité de garantir la présence continue d'une main-d'œuvre bien formée. Leur nombre insuffisant pourrait compromettre l'ambition de la Côte d'Ivoire de hisser sa production de 624 000 tonnes en 2018 à plus d'un million de tonnes en 2020. Albert Conan est le secrétaire exécutif du Fonds pour le développement de la culture du caoutchouc.
C'est ça notre challenge. Il faut que nous les formions dans les 3 ans qui viennent pour qu'au fur et à mesure que les parcelles vont rentrer à l'âge de rapporter de l'argent, les planteurs ne souffrent pas parce qu'il n'y a pas en face les seigneurs qu'il faut pour mettre à la récolte leurs plantations.
L'Association des professionnels du caoutchouc naturel va financer ce programme de formation à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Même si les cours mondiaux de l'EVA ont chuté, le métier de seigneur reste bien payé. Un professionnel qualifié peut toucher jusqu'à 200 000 francs CFA par mois, un très bon salaire dans le monde rural ivoirien.
Quand les gens saignent, ils gagnent un peu d'argent. Moi aussi, je veux faire pour aider mon mari aussi, pour qu'on s'avance devant.
Le caoutchouc ivoirien est reconnu pour sa qualité sur le marché international. Des associations de producteurs de l'EVA espèrent donc un appui de l'État pour restructurer le secteur via une exonération fiscale, estimant qu'il permet de lutter contre le chômage et la pauvreté dans le monde rural, freinant ainsi l'exode vers les villes.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot, à la console Michael Dubinsky. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous.